Chapitre 22. À une extrémité du campement, près du ruisseau, Pfister émit un long sifflement entre deux de ses doigts. Un signal que tous les soldats connaissaient, l'heure de battre en retraite avait sonné. Sans hésiter, les défenseurs se précipitèrent vers l'endroit où Callan et les autres attendaient. Au passage, ils s'emparèrent de leur paquetage. Les Shuntok furent très surpris de voir leurs adversaires abandonner brusquement un terrain qu'ils avaient défendu avec un rare acharnement. Un bref instant, ils ne surent pas comment réagir. Leur étonnement donna aux soldats l'avance dont ils avaient besoin. Ce n'était pas grand-chose en réalité, mais sur un champ de bataille, Callan le savait, quelques secondes pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. Une boule de feu de sorcier crépitait déjà entre les mains de Zed, rugissant comme si elle était vivante et pressée de semer la destruction. Dans le cœur liquide de cette sphère, tel un monde miniature, brûlait une sorte de lune translucide. Le feu de sorcier était l'héritage d'un ancien pouvoir dont il restait très peu de choses. À l'époque de Sulakan, cette magie existait partout dans le monde et l'empereur mort la contrôlait. En revenant dans le monde des vivants, il y ramenait des cauchemars qu'on croyait à jamais oublier. Zed faisait léviter entre ses paumes la boule mortelle, attendant le meilleur moment pour la propulser sur les demi-humains. À la lueur du sortilège, son visage parcheminé semblait parfaitement calme. Déterminé, il ne se poserait aucune question au moment de frapper. Callan connaissait bien cet état d'esprit. Quand elle était sur le point de déchaîner son pouvoir, elle aussi éprouvait une totale sérénité. Lorsqu'on se trouvait seul avec les antiques puissances qu'on abritait en soi, les émotions ne pouvaient être que des parasites. Le feu de sorcier était tenu pour une légende par bien des gens. Très rarement utilisé et devant fort peu de témoins, il passait pour un mythe, le vestige à demi oublié d'un temps révolu. Pour ceux qui croyaient à son existence, et plus encore quand ils l'avaient vu à l'œuvre en ayant la chance de survivre, c'était un objet de terreur. Callan avait souvent vu Zed recourir à cette arme redoutable. Pendant la guerre, ça s'était fréquemment révélé nécessaire, une des rares circonstances où une telle mesure se justifiait. Les sorciers avec lesquels Callan avait grandi ne s'étaient jamais trouvés une seule fois dans l'obligation de s'en servir. Plus que probablement, il n'aurait d'ailleurs pas su comment s'y prendre. Zed, lui, savait. Mais c'était la première fois que Callan le voyait si calme. De plus, il gardait la boule de feu entre ses mains comme s'il s'était agi d'un trésor dont il renâclait à se séparer. Une œuvre d'art d'une telle beauté qu'il aurait voulu la garder pour lui. D'habitude, le vieil homme invoquait son feu puis le lançait sur sa cible aussi vite qu'il le pouvait. Là, on eût dit qu'il laissait à sa création le temps de découvrir dans quel monde elle était née et celui de prendre des forces peut-être. De fait, les couleurs tourbillonnantes étaient bien plus vives que dans les souvenirs de l'inquisitrice. Zed avait recours au feu de sorcier dans les circonstances désespérées afin de sauver des vies. Aujourd'hui, parmi ses existences, il y avait celle du seigneur Allan personne, son petit-fils en plus de tout. Sachant ce qui allait se passer, Callan sortit de sa poche un foulard et s'en servit pour couvrir les yeux de la jument. Les destriers étaient habitués aux batailles et ne s'effrayaient plus des explosions. Avec cette bête-là, ça risquait de moins bien se passer. Sur la zone désormais découverte que venaient de quitter les défenseurs, les Shuntuk, remis de leur surprise, se lancèrent dans une charge furieuse. Plus d'obstacles devant eux, des proies qu'ils convoitaient, rien ne pourrait plus les arrêter. Quand le dernier homme de la première phalange fut passé devant lui, Zed écarta enfin les mains. Lui obéissant, la boule de feu fendit les airs en grossissant à mesure qu'elle approchait de ses cibles. Puis, elle brilla tel un petit soleil, et tout le secteur se retrouva éclairé comme en plein jour. Alors que tous les végétaux s'embrasaient, la boule de feu liquide balaya le terrain avec un grondement qui effraya jusqu'au demi-humain. Se couvrant les oreilles avec les mains, ils se plièrent en deux comme pour laisser passer l'orage. Rugissant plus fort que toutes les marées de feu dont Callan avait été témoin, le projectile de Zed transforma en torche vivante des centaines de Shuntuk, incendiant les vivants comme les morts déjà recroquevillés sur le sol. Parmi ces dépouilles, Callan reconnut des hommes de la première phalange. Des héros pour lesquels on ne pouvait plus rien. Au moins leur reste échapperait aux dents des Shuntuks. Pour eux, ça n'avait plus la moindre importance, mais pour l'inquisitrice, ça faisait une différence. Être incinéré semblait préférable à finir dans l'estomac d'un cannibale. Le feu liquide s'abattit enfin sur le sol, l'impact faisant trembler les arbres les plus solidement enracinés. Des aiguilles embrasées volèrent dans les airs puis retombèrent en pluie. Quand la boule explosa enfin, au milieu de la horde de Shuntuk lancée à l'assaut, des dizaines de corps démantibulés volèrent dans les airs, réduits en cendres avant même d'être retombés sur le sol. Le feu de sorcier ne pardonnait pas. Une fois qu'on était frappé, inutile de tenter de l'éteindre. Une simple flamèche, tombant sur un bras ou une jambe, consumait le membre jusqu'à l'os. Bien entendu, la douleur était atroce. Une fois touché, on n'avait plus qu'une idée en tête, se débarrasser de ce fléau. Hélas, c'était impossible. Enfin, presque. Sur les champs de bataille, Callan avait vu des hommes se couper une main, voire un bras, pour empêcher les flammes de remonter jusqu'à leur épaule, puis de se répandre sur leur torse. Dans la fournaise, des Shuntuks se transformaient brièvement en squelettes noirs avant de disparaître totalement. Ceux qui avaient pris la fuite ne regardaient pas derrière eux à cause de l'intensité de la lumière. Pour se protéger les yeux, Callan dut elle aussi détourner le regard et baisser les paupières. Un instant, elle craignit que la vague de chaleur lui embrase les cheveux et roussisse sa peau, mais elle était trop loin pour ça. Comme prévu, la jument supportait mal le traumatisme. Pour l'empêcher de se cabrer, Callan dut tirer de toutes ses forces sur les rênes. Couvrir les yeux de la bête avait été une très bonne idée. Combien de Shuntuk avaient péri carbonisés? En principe, il n'aurait pas dû y avoir de survivants, mais dans ces circonstances particulières, comment savoir? Eh bien, les pisteurs d'esprit et autres sorciers noirs se montreraient toujours assez tôt.
« On file !»
cria Callan en tirant Z par la manche. Les yeux voilés, le vieil homme était vidé de ses forces. Pour protéger ses amis et son petit-fils, il avait tout donné, mettant le meilleur de son art dans sa mortelle création.
« Qu'as-tu dit ? »
lança-t-il.
« On file. Tu nous as donné une chance, Z. Bravo. Et maintenant, on part d'ici. »
Malgré sa fatigue, le vieil homme soutint le rythme de Callan et entra dans le défilé en même temps qu'elle. Ravi qu'on la conduise loin de cet enfer, la jument se laissait guider docilement. Derrière, le feu de sorcier allait continuer à brûler pendant un moment, faisant d'autres victimes. Les blessés les plus légers s'en tireraient, mais il leur faudrait des mois avant d'être guéris, si ça arrivait un jour. Les autres mourraient dans les heures ou les jours à venir. Et même ceux qui avaient simplement respiré l'air surchauffé par la boule de feu étaient destinés à succomber, leurs poumons se consumant de l'intérieur. Alors que Callan s'enfonçait dans le défilé, tirant avec elle la jument, Nietzsche vint se placer à ses côtés.
« Je ne l'avais jamais vu dans cet état, » souffla-t-elle. « À mon avis, il a donné son maximum pour essayer d'éliminer aussi les demi-humains dotés de pouvoir. Et tu crois qu'il a réussi ?»« Non, mais c'était un effort louable. Je sais ce que coûte une telle invocation. Et j'espère qu'il a gardé des réserves pour la deuxième phase de l'opération. » Quand nous y serons, je l'aiderai avec de la magie soustractive. »
La magicienne dépassa Callan, tendit un bras et invoqua une flamme qui lévita devant elle. Il ne s'agissait pas d'une arme, seulement d'une source de lumière afin d'éclairer leur chemin. Une saine protection sur un terrain semé de racines affleurantes et de pierres branlantes. Puis, Nietzsche se tourna vers les soldats.
« Regardez devant vous. Il faut que vos yeux s'habituent à l'obscurité. » De plus, quand nous aurons un peu avancé, Zed utilisera de nouveau son feu de sorcier, donc il vaut mieux vous habituer à ne pas jeter de coup d'œil derrière vous. Dans ce défilé, la lumière sera encore plus aveuglante. Un désavantage pour nos ennemis. Faites en sorte qu'il n'en soit pas de même pour vous. »
Les soldats acquiescèrent. Nietzsche ouvrit la marche, Callan sur les talons. Longer le ruisseau n'était pas simple à cause des pierres humides et de la mousse. Dans l'exercice de ses fonctions d'inquisitrice, Callan avait passé sa vie à voyager dans la nature. Nietzsche, elle, était une femme des villes. Avant de rencontrer Richard, elle avait rarement posé les pieds sur de la terre ou de l'herbe. Grâce aux sourciers, elle avait appris à s'en sortir sur le terrain le plus hostile, une chance dans les circonstances présentes. De temps en temps, quelques soldats devaient passer devant pour dégager le chemin en coupant des branches ou des buissons trop envahissants. En femme expérimentée, Callan laissait la jument marcher là où elle voulait, pas question qu'elle se brise une jambe. Les flammes éphémères que Nietzsche invoquait de temps en temps révélaient parfois des murailles de pierre qu'il fallait contourner. L'eau s'infiltrant par les moindres fissures, la roche luisait d'humidité et la mousse prospérait. Au bord du ruisseau, des cendres parvenaient à s'accrocher à la terre. Un peu plus haut sur les pentes, de grands pins les dominaient. Partout où le sol était trop rocailleux pour ces géants des bois, de plus petits arbres et des buissons les remplaçaient et c'était leurs racines qui représentaient un grand danger. En plein jour, ce défilé n'aurait pas été facile à traverser. De nuit, c'était encore plus compliqué, mais pas infaisable. Cela dit, la progression se révéla très lente. Mais sur ce point, il en irait de même pour les Shuntuk. Au moins, sur un tel terrain, ils n'auraient aucune chance de contourner leur proie ou de les encercler. Le fond du défilé restait le chemin le plus rapide. Passer par les versants, en plus d'être dangereux, prendrait beaucoup plus de temps. Le plan de Richard était parfaitement conçu. Bientôt, le marteau allait pouvoir frapper l'enclume. Le ciel s'illumina lorsque Zed, qui fermait la marche, déchaîna de nouveau son feu de sorcier. Une explosion fit trembler le sol. Sentant l'onde de choc jusque dans sa poitrine, Callan se demanda combien de demi-humains avaient péri ce coup-ci. Obéissant aux consignes de Nietzsche, elle résista à la tentation de se retourner pour voir ce qui se passait. La magicienne blonde courut rejoindre Zed. Captant du coin de l'œil des éclairs blancs et entendant un bruit de fin du monde, Callan comprit que l'ancienne maîtresse de la mort utilisait un mélange de magie additive et soustractive, une arme aussi dévastatrice que le feu de sorcier, mais qui ne serait pas plus efficace sur les Shuntuk dotés de pouvoir. Pour les autres, les minutes à venir allaient être un enfer. L'épée de Richard lui communiquant sa colère, Callan bouillait d'envie de charger les monstres qui menaçaient la vie de son mari. Elle dut se raisonner pour ne pas le faire. Ce n'était pas encore le moment. Mais quand il viendrait, l'épée de vérité se gorgerait de sang.